Le Loup.
Dans l'actualité ce matin, la Frappe revient sur son succès électoral dans la fonction publique et donne son cap. Vous entendrez le haut-commissaire qui espère voir l'épice créée après les municipales. Et puis, nous irons à Jarumatei avec Sylviane Teloatea, candidate à Uturoa. Le journal de la rédaction est présenté par Lucie Rabreau. Bonjour Lucie.
Et bonjour Damien, bonjour à tous.
Après son succès électoral dans la fonction publique, une nouvelle année de combat commence pour la Frappe.
Une première dans les commissions administratives paritaires, première aussi dans les commissions. Comité technique paritaire, plus de doute pour Jean-Paul Oulima, la Frappe est bien la première organisation syndicale de la fonction publique territoriale et bien décidée aujourd'hui à remettre sur la table leurs revendications. Ils se verraient bien notamment avoir des places dans des instances comme la CPS au même titre que les syndicats représentatifs du privé. Le secrétaire général délégué de la Frappe, Stéphane Rey, au micro de Nani Hilaroche.
Le premier point, c'est la notion de représentativité serait étendue donc aux syndicats de la fonction publique. Donc, ce qui veut dire quoi aujourd'hui? Il y a par exemple des instances comme la CPS au sein desquelles donc, sont représentées les organisations syndicales qui sont donc dans le secteur privé. Donc aujourd'hui, ce qu'on souhaiterait, c'est, et ce qui était convenu, c'est que les organisations syndicales qui sont représentatives des agents donc, de la fonction publique territoriale puissent également siéger.
Les militants assurent que c'est un projet qui avait déjà été évoqué avec le pays en décembre 2024. Et autre combat à mener, la refonte des cadres d'emploi, un sujet qui avait déjà provoqué plusieurs mouvements de grève l'an dernier. Et bien évidemment, la revalorisation du point d'indice, une revendication centrale dans le premier mouvement de grève de 2024, avant que la Frappe n'ait des demandes spécifiques aux catégories D.
Et nos analyses, et nous l'avons exposé au président, ont montré que donc, sur les 20 dernières années, il y a eu une perte de plus de 20% du pouvoir d'achat des agents de la fonction publique. Donc nous souhaitons que par le biais du point d'indice, on puisse contrebalancer cette perte-là. Et pour ça, il faut qu'on ait des vraies discussions. Au mois de mai de l'année dernière, on était parvenu à s'entendre avec tous les syndicats qui étaient présents à un point d'indice. Alors, c'était un idéal, donc un point d'indice qui devait s'avoisiner les 1250 francs.
Au 1er mai dernier, le point d'indice avait déjà été augmenté de 1060 à 1080 francs. Le syndicat veut plus, vous venez de l'entendre. Et Stephen Rey se dit optimiste sur les discussions avec le pays. Mais il n'exclut pas la possibilité que des grèves soient de nouveau déclenchées si aucun accord n'est trouvé.
À 7h03 dans ce journal de la rédaction, l'actualité judiciaire, Lucie, maintenant avec ce lynchage doublé d'une agression sexuelle.
Oui, c'est le calvaire enduré par un jeune garçon de 16 ans ce 3 janvier à Faa. Des coups au visage, des écrasements de la tête, une masturbation forcée entrecoupée par 3 pertes de connaissance. Le tout diffusé sur les réseaux sociaux. Les auteurs identifiés ont été jugés en comparution immédiate. Un jeune majeur a écopé de 4 ans de prison ferme. Le tribunal des enfants avait déjà condamné 2 mineurs de 14 et 16 ans à de la prison avec sursis lundi et un adolescent de 15 ans considéré comme le meneur de la bande a lui écopé de 3 ans de prison ferme.
Et toujours au tribunal, un avocat a été condamné à une amende hier pour des photos.
Oui, on ne plaisante pas avec l'interdiction de faire des photos dans les tribunaux, même quand on porte la robe. Maître John Tefan, avocat au barreau de Papeete et ancien candidat aux législatives, comparaissait hier pour avoir pris en photo lors d'audience au tribunal des magistrats et une greffière. Après des excuses à la barre, il devra aussi s'acquitter d'une amende de 200 000 francs.
On revient aussi sur les festivités du Nouvel An qui n'ont pas fait que des heureux à Papara.
La direction du supermarché LS Proxy de Afareri a rendu publique une lettre qu'elle a adressée à la mairie. Elle y dénonce des attroupements importants de personnes alcoolisées avec des carbasses à très fort volume sur la voie publique et l'occupation prolongée des abords du magasin l'a même contraint à rester fermée le 1er janvier. Une fermeture que la direction juge lourde de conséquences. Parlons d'un préjudice économique direct et inacceptable, d'autant que ces troubles sont récurrents. Une pétition circule même dans la commune où les Mouteuils sont accusés de ne pas chercher à intervenir. Sollicitée, la mairie dirigée par Sonia Pounois n'a pas apporté de réponse ni de précision.
Alexandre Rochat était l'invité de la rédaction hier. Le haut-commissaire a précisé son cap pour 2026.
Entre lutte contre les trafics qu'il estime de plus en plus efficace, soutien au pays notamment dans la préparation des Jeux ou surveillance de la ZEE qui sera amenée à être renforcée. Le représentant de l'État est aussi revenu sur la création de l'Épice, un établissement créé par ordonnance voilà 20 ans, censé centraliser les appels au secours. Il n'a jamais été concrétisé mais depuis 2024 on en reparle. Des décrets d'application et un premier conseil d'administration était promis avant la fin de l'année dernière. Sauf que certains maires ont freiné des quatre fers. Cyril Tétoinouille du syndicat de promotion des communes avait même dit son refus de cette structure centralisée. Mais les PIS restent un objectif majeur pour les services de l'État, a assuré Alexandre Rochat sur notre plateau.
C'est un objectif majeur opérationnel, c'est un objectif majeur de coordination des moyens de secours, c'est un objectif majeur de formation cohérente, c'est aussi un objectif majeur de mise en commun d'un certain nombre d'achats qui vont permettre d'économiser. Il y a eu 11 VSAB, donc des véhicules de secours qui ont été commandés en Polynésie française l'année dernière, et bien on aurait pu en économiser un si on avait eu une centrale d'achat. Et les PIS, c'est une centrale d'achat.
Faire des économies mais aussi gagner en performance, sa première mission, gérer une plateforme de traitement des appels d'urgence, une centralisation qui ne privera pas les maires de leurs prérogatives, assure Alexandre Rochat.
Le maire continuera à être responsable de son centre de secours, de ses pompiers, de son matériel. En revanche, il a une responsabilité d'intervention. Et s'il n'est pas capable de tracer le moment où il y a eu l'appel et le moment où les pompiers sont intervenus, eh bien, on peut mettre en cause sa responsabilité. Il y a eu des incidents, il y a déjà eu des accidents dans les îles Sous-le-Vent, par exemple, sur le sujet. Et on sait qu'il y a des procès qui pourraient être lancés.
Des arguments déjà développés auprès des Tavana ces derniers mois, mais avec un succès mitigé. Des courriers ont donc été encore envoyés pour réexpliquer les avantages de l'épice, mais aussi les risques en termes de responsabilité de ne pas y aller. Les décrets seront bien pris ce mois-ci et l'activation de l'épice est prévue à partir d'avril après les municipales. Autre sujet abordé aussi avec le haut-commissaire, la grève à la tour de contrôle. Un rendez-vous doit avoir lieu avec les représentants de l'USAC CGT ce mercredi et vous pouvez retrouver l'interview du haut-commissaire en intégralité sur notre site radio1.pf et notre page Facebook.
On termine avec les municipales, Lucie, c'est dans moins de 3 mois.
Et ça commence à chauffer au Raro Matei. Lana Tétoinouille confirmait sur TNTV qu'elle soutiendra la candidature de son mari Cyril Tétoinouille à Toumara plutôt que celle éventuelle de sa fille Naomi Mihiura. Et au nord de Rayatea, côté Uturoa, Sylviane Teroatea se prépare elle aussi. Elle compte bien reprendre à Matei Broverson la mairie qu'elle avait perdue et sa liste est prête.
J'ai constitué une équipe de tous bords, l'association de l'éducation, de la santé, pour justement amener une cohésion et surtout un savoir-vivre, un savoir-faire auprès de la population. Et sur cette nouvelle équipe, avec beaucoup de jeunes quand même, hein, qui ont été intégrés à leur demande, hein, et c'est initié par eux-mêmes, ils veulent faire l'expérience d'une vie dans la commune, au sein du conseil municipal et tout. Et donc, nous avons déjà entamé nos réunions et demain, nous allons nous réunir pour finir et valider certaines décisions ensemble.
Et parmi ses priorités, poursuivre le projet de la centrale hybride de Haut-Touloua, régler le problème de l'assainissement, renégocier la convention avec la famille Hebb pour le dépotoir de Tepoua, continuer l'enfouissement des réseaux électriques et s'occuper de la jeunesse qu'elle considère aujourd'hui délaissée. Des projets qu'elle avait déjà initiés lors de ses précédentes mandatures mais qui ont été laissés de côté par le maire actuel, ce qu'elle regrette.
Je suis au conseil municipal dans la minorité et je constate que la division entre le maire et son premier adjoint au maire, Johan, a freiné un peu beaucoup de projets. Ils se sont occupés dans l'intérêt personnel de défendre chacun son intérêt. Et aujourd'hui, on constate que les projets n'ont pas avancé.
Voilà, une division qui s'est de plus en plus creusée, selon elle, entre Matei Broverson et son premier adjoint, Sylviane Teroatea, parle même d'un clash. Les municipales, on vous le rappelle, ce sera les 15 et 22 mars prochains. Voilà, c'est la fin de ce journal. Retour de l'information à 7h30 pour la revue de presse.
Maroulou, Lucie, à tout à l'heure.